Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Sans plus attendre, notre billet.
Nature Urbaine, le billet vert.
Alors ce billet est intitulé Marron. Car pour ce billet, j'ai encore eu l'angoisse de la passe blanche. Je l'ai déjà fait la dernière fois, le coup de la panne. Il s'en est fallu de peu pour que j'abandonne. Vous qui entendez régulièrement parler de crédit d'impôt sur cette chaîne, vous risquiez d'être exonéré de ces 5 longues minutes de mots. Alors vite, vous imaginez bien, j'ai songé à plusieurs sujets. Cela se bousculait, mais rien vraiment ne se détachait. J'allais donc en voir de toutes les couleurs. J'aurais pu suivre le marronnier. Pas le marronnier d'Inde, quoique la dinde soit un mets de circonstance. Enfin, mai, décembre. Le mois, non, le plat de ce mois-ci, le mai de décembre, en somme. Bref, on ne va pas en faire un fromage. Le marronnier est à ne pas confondre avec la châtaigne qui, elle, est comestible. Non pas que la dinde ne le soit pas. Mais le fruit du marronnier d'Inde, non, il ne l'est pas. Et pourtant, une bonne châtaigne, dans le langage courant, on appelle cela un marron. Chaud, chaud les marrons. C'est agaçant, hein? Ça vous électrise? Il faut dire qu'une châtaigne désigne également une décharge, un coup de jus. J'aurais encore pu citer Renault pour augmenter la confusion. Il m'a filé une beigne, j'y ai filé un marron, il m'a filé une châtaigne, j'y ai filé mon blouson. Mais laisse-béton avec notre invité du jour, vous allez voir, c'est assez mal trouvé. Suivre le marronnier, dans le jargon journalistique, c'est, d'après Wikipédia, un article ou un reportage d'information de faible importance, meublant une période creuse, consacrée à un événement récurrent et prévisible. Les sujets débattus dans un marronnier sont souvent simplistes, parfois mièvres, et son équivalent anglophone est le terme « evergreen » qui signifie « à feuille persistante ». Non, je ne crois pas que ce soit un botaniste qui ait rédigé cette définition, mais avec ces plateformes collaboratives, vraiment, le sait-on. J'aurais pu rebondir en parlant d'Adbies Nordmanniana, qui n'est pas le nouveau titre d'Aya Nakamura, pas plus que sa parodie par le Palmacho, mais le sapin vert Abies Nordmanniana qui perd peu ses aiguilles et est préféré par 70% des Français. Et ce sujet devient polémique, un véritable aiguillon et bien hipster sur le tard à cause du premier confinement. Je ne crois pas que ma barbichette puisse rivaliser avec celle de Santa Claus. Le cornet, ou plutôt la hotte de marron chaud, est donc aussitôt close. Le marronnier suivant est celui des vœux. À 20 millions de prétendants prêts, si je laissais parler mon côté misanthrope, je réciterais bien volontiers Hexagone, à nouveau de Monsieur Séchant, pour qui la terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindos marron. Au moins cette année, ils ne s'embrasseront pas, au mois de janvier, car une nouvelle année commence, mais la présente est tellement gratinée qu'elle a un peu changé, la France. Et puis ma France à moi, ma grand-mère de cœur, née en 1917, prénommée Victoire France par son père boulanger à Saint-Étienne, cette femme qui m'a, je crois, rendu incapable d'être indifférent au monde et qui incarnait si bien la sororité, a été emportée par le virus, cette saleté. Et puis c'est un peu facile d'ailleurs de citer une chanson jeune de 45 ans née sous Valéry Giscard d'Estaing et qui en plus souffle sur les braises. Tiens, Monsieur le Président et Madame la Première Dame présentaient d'ailleurs, en 1975, année de parution de la polémique chanson, leurs bons vœux devant la cheminée. Mieux vaut tirer les marrons du feu qui se dit de celui qui se tire habilement d'affaires, qui sauvegarde adroitement ses intérêts, c'est ce que nous dit l'Académie française. Alors, je me suis mis à penser à l'animal. J'ai pensé à cela, rien à voir, vous allez me dire, mais pas sûr. Cela me paraissait être un moyen de parler de douceur et de cette autre loi de la jungle, l'entraide, la coopération. Une manière de dire, par analogie, que quand tout va mal, la tentation du repli, la compétition, le chacun pour soi, à part la guerre, ça n'apporte pas grand-chose. Le dire ainsi aurait été assez moralisateur et plutôt mièvre. CQFD, cela aurait donc été un marronnier. Ou plutôt, j'étais marron. Avec les animaux, on peut, comme George Orwell ou La Fontaine, raconter la cruauté du monde. Tirer les marrons du feu, au sens premier, nous dit à nouveau l'Académie, c'est d'ailleurs s'exposer à des risques au profit d'autrui par allusion à la fable de Jean de La Fontaine, le singe et le chat. Avec les animaux, on peut aussi relater la beauté de la nature et la quiétude que son observation procure. Tenez, moi par exemple, j'aime regarder les vaches. On dit que les vaches regardent passer les trains. quand tout va de mal en pis, plutôt que de ruminer soi-même, les regarder qui paissent vous apaisent, c'est certain. Enfin, les vaches, c'est un animal domestique. Alors, de là à dire que c'est un artefact naturel, c'est presque une question en lien avec notre intervention du jour. Je vous recommande la réécoute à ce sujet des entretiens que Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l'environnement, a accordé à une petite antenne consoeur qui émet depuis une maison ronde dans le 16e arrondissement de Paris et qui se dit être la première radio de France. S'il y a bien un narrateur sans égal des animaux et qui colle avec l'actualité, c'est Maurice Genevoix, qui est entré au Panthéon avec ses poilus en cortège. Grand écrivain de la Grande Guerre, mais aussi pionnier de l'écologie, qui après avoir dû tirer sur ses semblables, disait ne plus éprouver tout à fait le même goût à prendre son fusil, et qui mêlait le récit des horreurs et la poésie. Jacques Tassin, ingénieur horticole et écologue de grand talent, qui nous apprend notamment dans ses recherches à penser comme un arbre, est aussi un biographe de Genevoix. Et il nous disait le 11 novembre, Maurice Genevoix était rendu à la vie après avoir été mutilé à 100%. Et il a retrouvé ses talents au contact des autres êtres vivants. C'est d'abord cela, cette résilience, ce courage et ce goût du vivant qu'il s'agit de faire valoir aujourd'hui, rappelant que, même dans ceux de 14, l'auteur consacrait plus de 30 occurrences aux chevaux de guerre. Alors j'ai quelque part le bestiaire enchanté de Maurice Genevoix à la maison. Figurez-vous que je n'ai pas réussi à le retrouver pour cette émission. Il faut dire qu'à Paris, les appartements sont tellement grands. Alors reprenons la quatrième de couverture, qui n'est pas un résumé, mais il me semble bien un extrait sous la plume du Solognaud et qui constitue la conclusion de cette chronique, sous la forme d'une invitation expérientielle, vous allez comprendre que ça va résonner avec notre entretien, pour le marronnier que sont les fêtes de fin d'année. Le monde réel est multiforme, merveilleux, inépuisable si l'on sait renoncer à la violence, au meurtre, aller vers lui dans la ferveur. Alors se redécouvre l'harmonie du monde et des êtres, la présence fabuleuse et fraternelle de l'animal. Les silhouettes effacées par la vision quotidienne y retrouvent mystère et magie. Prodigieux barbeux de la Loire, fougueux mouflon du Canada, l'oriot sacré du printemps, tendre écureuil, compagnon d'un soir.
Nature urbaine, l'interview, première partie.
Et nous recevons aujourd'hui, j'en suis très heureux, une observatrice, mais aussi une actrice tout à la fois de la vie urbaine. Bonjour, Marion Valeur.
Bonjour.
Marion, je vous reçois tout d'abord en tant que philosophe de l'environnement. Nous consacrerons la première partie de notre émission, au moins, à parler de nature. Mais vous êtes également urbaniste et actuellement, vous occupez le poste de conseillère de la maire de Paris en charge de l'architecture, du patrimoine, de la rénovation énergétique des bâtiments et de la transformation du paysage urbain. Alors, l'un des thèmes de prédilection de vos recherches est la restauration écologique. Il y est beaucoup question de nature et plus précisément d'un concept, les artefacts naturels. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais d'abord, une première question pour vous. Qu'est-ce que la nature, ou plutôt, comment définir ce qui n'est pas naturel ?
Waouh, ça commence fort. Alors, je ne vais pas forcément répondre directement à la question, mais je dirais que la nature, c'est peut-être le début du problème pour tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'urbanisme ou la philosophie de l'environnement. Parce que dès lors qu'on a posé le mot nature, en fait, on a aussi exclu l'humain de beaucoup de choses et on a laissé entendre qu'en fait, on pouvait laisser un tout petit territoire à la nature et que le reste avait le droit d'être non naturel. Ce qui n'a absolument aucun sens, puisque quand vous essayez, faites cette expérience, essayez de définir ce qui serait naturel, ce qui ne serait pas naturel. C'est extrêmement difficile et le risque avec ce mot nature, c'est bien sûr de se dire que finalement, la nature serait ce qui ne serait pas humain, en fait. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux, à mon sens. Et en matière d'urbanisme, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse tous les deux, en matière d'urbanisme, le terme nature a créé aussi ce danger de réserver certaines zones à ce qu'on appelle nature et donc de sous-entendre que tout le reste serait non naturel et n'aurait pas besoin d'accueillir de la nature. Et c'est là, je trouve, le grand danger de ce terme. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une exposition passionnante qui avait eu lieu au pavillon de l'Arsenal qui s'appelait « Capital agricole », qui montrait bien en fait comment historiquement dans les plans locaux d'urbanisme en France, on avait séparé les zones naturelles des zones dites urbanisées et des zones agricoles. C'est-à-dire qu'on a laissé entendre qu'en fait il y avait des zones naturelles qui ne pouvaient pas être des zones cultivées, mmh. et que dans des zones urbanisées, finalement, la nature ne jouait qu'un rôle mineur. Donc voilà, je pense que ce terme nature, il est extrêmement compliqué, et pour plein d'autres raisons que des philosophes ont pu traiter, mais pour l'urbanisme, ça, c'est très compliqué.
Et c'est bien le sens de cette question, et ce que vous démontrez dans votre ouvrage que nous allons présenter dans quelques instants, c'est qu'il est très difficile de définir ce qui n'est pas naturel. Une des questions qui est soulevée, c'est notamment, est-ce que l'homme peut créer des choses naturelles ? On aurait tendance à dire non, mais vous citez deux exemples, je vais vous laisser les développer, celui de la corbeille et celui du nid d'oiseau, celui du refuge de castor. A priori, pas grand-chose ne les distingue.
Alors effectivement, donc c'est un exercice qui est cité par l'auteur Tim Ingold, donc qui est un anthropologue, et qui cite en fait cet exercice de comment faire si on voulait distinguer les choses naturelles des choses non naturelles. Et donc il prend plusieurs exemples. Il prend par exemple l'exemple de l'aile d'oiseau et de l'aile d'avion. Et il dit une première manière de séparer ces choses serait de dire qu'il y en a qui sont régulières. Et que quelque chose qui serait moins régulier serait peut-être naturel. Ça ne fonctionne pas du tout, puisqu'il y a des choses dans la nature, entre guillemets, qui sont extrêmement régulières. Une autre approche serait de dire que des choses non naturelles seraient créées pour une certaine raison, alors que des choses naturelles, en fait, existeraient par elles-mêmes. Là aussi, ça ne fonctionne pas, puisqu'on voit bien que des animaux peuvent créer des choses qui vont avoir un certain objectif. Et donc... C'est là que Tim Ingold en fait nous dit dans notre pensée commune en fait le non naturel c'est ce qui est créé par l'humain et c'est bien là le problème et du coup lui prend cet exemple de la corbeille tressée. Je trouve que c'est un très bel exemple où en fait il dit il faut plutôt essayer de repartir de l'exemple d'une corbeille tressée et de voir le monde comme ça, c'est-à-dire une corbeille tressée tout simplement c'est une interaction permanente entre de la matière des matériaux et une action humaine. Et en fait, on ne peut pas dire... C'est vraiment le résultat d'une interaction. On ne peut pas dire que ce soit plus humain ou plus naturel. Et en fait, il faut appliquer ce paradigme à toute notre action dans le monde. Et donc, lui, c'est ce qu'il appelle vraiment le tissage. Et donc, je trouve ça très beau, c'est de se dire il faut tisser le monde. Et en fait, il faut tout le temps se voir comme artisan d'un tel tissage avec la matière qui va finalement créer des objets assez uniques, mais où l'interaction est totale.
Effectivement, vous parlez de la racine commune entre dessin et dessin, E-I-N et I-N, et pour les vanniers qui nous écoutent, ils sont peut-être peu nombreux aujourd'hui, mais lorsque vous tressez de l'osier issu du saule, allant jusqu'au bout de la ressource naturelle, vous pouvez imaginer une forme, mais il y a des contraintes inhérentes à sa structure même. Et ça, c'est un échange, un équilibre permanent. Est-ce que c'est un petit peu ça la pensée autour de cette fameuse corbeille ?
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de l'artisan, mais en fait, cette volonté n'est pas totale puisqu'elle interagit avec des propriétés de la matière. Et donc, l'objet sera un résultat entre cette volonté et ses propriétés initiales.
Et puisque la nature serait ce qui empêche d'avancer, vous avez, en 2016, vous avez vu la transition, publié un ouvrage que je vais montrer ici. Alors, il est plein de marque-pages, évidemment. Il s'appelle « Artefacts naturels » avec pour sous-titre « Nature, réparation, responsabilité ». Il a paru aux éditions de l'Éclat. Alors, question, qu'est-ce qu'un artefact naturel ? Ça va peut-être être plus facile à définir pour le coup que la nature. Ça semble un oxymore. Est-ce que c'est... Et c'est facile, puisque vous le dites dans votre livre, quelque chose qui a un rapport avec un hybride, finalement, entre la nature et ce qui ne serait pas naturel dans ces classifications un peu artificielles, comme les appelle Bruno Latour.
Oui, je pense que clairement, ça s'inscrit dans cette réflexion autour de l'hybridité. C'est l'idée, en fait, d'objets qui sont créés intentionnellement par l'être humain, mais qui peuvent s'apparenter à des processus naturels, c'est-à-dire des objets qui ont une chance d'obtenir une certaine autonomie et de s'inscrire dans des processus naturels. Alors quand je dis naturel, c'est par opposition au surnaturel, avec un exemple très simple qui est celui de la piste de ski à Dubaï, puisque par exemple une piste de ski à Dubaï ne pourrait pas exister et ne pourrait pas avoir une quelconque forme d'autonomie. Et donc, elle s'inscrit dans des processus surnaturels, à mon sens. Et donc, un artefact naturel, c'est quelque chose qui va être créé par l'être humain et qui peut tout à fait, qui aurait pu exister en fait, qui peut s'inscrire dans des écosystèmes. Peut-être qu'il ne peut exister que via l'action humaine, c'est possible, mais il peut s'inscrire dans un écosystème. En fait, il peut trouver sa place vis-à-vis d'autres êtres vivants et non vivants.
Mmh. Alors, si on veut un exemple, est-ce qu'un jardin peut être un artefact naturel? Ça peut être quelque chose de complètement conçu par l'homme et très artificiel, qui peut s'autonomiser avec le temps? C'est ça l'idée? Ça fait partie des artefacts naturels?
Tout à fait. Je trouve que le jardin est un bel exemple, déjà parce qu'il existe depuis très longtemps, et je pense que c'est une image assez simple en fait pour se projeter justement de cette interaction entre des êtres humains et un paysage, et de reconnaître qu'on n'est pas le seul intervenant. Quand on cultive un jardin, on sait qu'il va y avoir plein d'autres facteurs, d'autres êtres vivants qui vont intervenir, qui vont modifier ce milieu. Mais on reconnaît notre action. On sait que cet écosystème ne dépend pas que de notre action, mais en fait, on s'inscrit dans une forme d'harmonie avec un milieu. Et donc, je pense que c'est un très bon exemple.
Évidemment, c'est un très bon exemple. Je vous remercie, Marion. C'est une boutade. Et est-ce qu'il y a d'autres artefacts naturels que l'on peut citer pour nos auditrices et nos auditeurs qui permettraient de filer encore plus la métaphore et de comprendre le concept ?
Ben, je pense que repartir de l'habitat, ça me semble intéressant, puisque quand on parle d'écologie, on sait que l'habitat, c'est quand même la première cellule qui compte. Et de se dire qu'on doit voir chaque habitat, en partant de l'habitat des animaux, comme une forme d'artefact naturel, je trouve, nous est très utile pour penser l'architecture, pour se dire que un bâtiment, justement, peut être de l'ordre de la zone naturelle. Quand on parle de zones naturelles et de zones non naturelles, moi, il me semble qu'on peut tout à fait habiter dans des zones naturelles dès lors qu'on conçoit une architecture qui sache s'intégrer et qu'on pense que l'être humain peut s'intégrer dans un écosystème. Et donc un bâtiment, dès lors qu'il utilisera des matériaux respectueux d'un certain milieu, qui ne viennent pas détruire un milieu, qui ne viennent pas détruire un sol, il me semble, peut être un artefact naturel.
Très bien. Et vous citez notamment d'autres exemples comme les espèces domestiquées, qui est un sujet extrêmement complexe, et c'est pour ça que nous l'avons cité dans le billet d'introduction. Alors, si on poursuit un petit peu sur cette nature, vous écrivez un petit peu plus loin, je cite, « L'étude philosophique des artefacts est un moyen de franchir la frontière, ce qu'on a évoqué, souvent dressée par les mouvements écologistes comme par certains mouvements philosophiques, visant à prouver que l'être humain est en dehors de la nature, que toutes ses actions brusquent une nature harmonieuse et figée, que son intervention dans la nature la rend impure. » Et vous ajoutez même plus loin, « Les critiques récurrentes formulées à l'égard de cet ensemble, des exemples d'artefacts naturels, sont l'expression d'une philosophie de l'écologie dangereuse dans son exclusion systématique de l'espèce humaine hors de la nature. » Et du coup, en faisant un petit raccourci de chapitre, est-ce que c'est cette vision-là qui exclut l'humain de la nature qui serait à l'origine du fameux wilderness américain ?
Oui, c'est lié. C'est un courant qui est vraiment très fort dans la philosophie environnementale ou même dans l'histoire de l'environnement, et que moi, je trouve assez inquiétant, puisque, comme tu le disais, c'est cette idée que finalement... serait pure, serait naturelle toute zone où il n'y a pas l'humain. Et en fait, je pense que laisser croire ça est dangereux et n'a aucun sens, puisque, par exemple, laisser croire qu'il y a aujourd'hui des zones de nature vierge où l'être humain n'a pas d'impact n'a pas de sens dans la mesure où l'être humain a de toute façon un impact climatique global. Donc même si on n'est pas sur zone, bien sûr qu'on impacte quand même cet écosystème. Et puis, il me semble que c'est dangereux puisque ça laisse croire qu'il n'y a aucune chance, en fait, qu'il y ait des interactions positives entre l'être humain et son environnement. Et ça, je trouve ça tragique. Pour moi, si on pose cette base-là en philosophie de l'environnement, c'est extrêmement inquiétant, puisque si on laisse croire à l'être humain qu'il ne peut pas se réconcilier avec un écosystème, avec un milieu, alors il sera tenté de se retrancher dans des zones non naturelles, de laisser le naturel en dehors. Et je ne vois pas comment il y a là-dedans un récit possible, un récit écologique.
Et d'exacerber les dérèglements globaux que vous citiez juste avant.
Et donc la wilderness, c'est effectivement un terme qui est très puissant dans l'imaginaire américain, qui désigne en fait ces zones de nature vierge qui est très lié aussi au poids de la conquête dans l'imaginaire américain, et avec l'idée que ce sont donc des zones vierges où, d'ailleurs, on oublie qu'il y a eu des populations amérindiennes, souvent qui ont façonné aussi ces milieux, donc on exclut une part de l'histoire humaine, et puis surtout on crée ce fantasme d'une nature sauvage où d'autres lois existeraient. Alors qu'en fait, souvent, ce sont des zones qui sont façonnées par l'humain, rien que par tout cet imaginaire qui, en fait, les enferme. Et en fait, c'est une forme de création humaine. Mmh. Il faut le dire en tant que tel. Ça n'est pas grave, mais il faut le reconnaître.
Et vous le dites aussi, le fait même qu'il soit délimité, cartographié, et en allant même plus loin, le fait qu'on ne puisse pas y aller, ou que peu fréquemment, nous prive, êtres humains, d'une connaissance du vivant qui est un préalable à une forme de dialogue et de vie avec la nature qui serait, lui, fécond, plus fort. Alors, à l'inverse, vous dites que les artefacts naturels sont des objets frontières qui permettent de dépasser les oppositions classiques de l'écologie. Au contraire, est-ce qu'il n'y a pas... Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça nous invite un peu à déculpabiliser, parce que vous le disiez, sinon on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on se concentre dans des zones non naturelles, entre guillemets, et on ne fait qu'augmenter les problèmes, en vivant en vase clos, en quelque sorte. Mais au contraire, est-ce qu'il n'y aurait pas une vision qui serait, elle, très anthropocentrée? On entend cela régulièrement, qui consisterait à dire que la technique, le dessin et le dessin de l'être humain sur la nature seraient les seuls éléments valables pour retrouver une harmonie ou créer quelque chose de nouveau.
Bon, ça, je pense que c'est un autre fantasme. Hein. Vous avez le fantasme wilderness et puis vous avez le fantasme du tout technique et de se dire que de toute façon, on trouvera toujours la solution technologique pour résoudre les problèmes qu'on a nous-mêmes créés. Mmh. Ça me semble un petit peu facile, évidemment, et ça nie tout simplement l'existence de beaucoup d'autres êtres qui, en fait, influencent le milieu, puisque cette vision-là, part aussi de l'idée que l'être humain serait le seul finalement à modifier son environnement et qu'on aurait toute puissance avec la technique pour tout modifier. Oui. Or, je trouve qu'il est toujours important de rappeler que de nombreux êtres vivants, bien avant l'être humain, modifient leur milieu. Absolument. Construisent des habitats, construisent des ponts sur des rivières. Ils modifient leur milieu par petites touches, par grandes touches. Regardez des animaux qui vont creuser des galeries ou même l'agriculture qui peut être pratiquée par certains animaux, ce que font les fourmis. Il faut se rappeler que les modifications de l'environnement sont énormes de la part de non-humains. Et donc, il faut s'inscrire dans cette histoire longue et donc se dire, attention, l'être humain n'est pas le seul à modifier son milieu. Donc, le fait de modifier son milieu n'est pas un drame en soi, c'est important de le dire. En revanche, la question est bien sûr comment on le modifie et donc de reconnaître cette longue histoire et de se dire, on peut modifier le milieu tout en le respectant.
Et c'est le thème suivant dans votre ouvrage. Alors, on n'aura absolument pas le temps, je regarde la régie, de tout traiter, mais c'est le thème de la restauration. Et vous dites notamment qu'un des points de repère pour restaurer un écosystème peut être historique. Et ça pose tout un tas de questions. Parce que à quelle période se référer pour l'objet, l'état initial? Cela me fait évidemment, en lien avec l'urbanisme et le thème de notre émission, penser aux plantes dites indigènes. Mais aussi, cela peut être étendu, vous l'avez dit à propos du wilderness et des grands parcs naturels américains, à tous les êtres vivants et donc à certaines populations dont on gommerait une partie de l'existence. Si on veut le reformuler de manière très abrupte, c'est quel sens y aurait-il parfois à revenir à l'âge de pierre? C'est une question que se posent souvent certains paysagistes, des architectes, face à des affirmations qui sont scientifiques, mais aussi tout à fait discutables de certains écologues, et ça a provoqué pendant des années des débats relativement stériles. Vous indiquez aussi une autre pensée qui serait qualifiée, vous me corrigez si ce n'est pas exact, de pastorale, qui serait proche de la notion de care, qui consisterait à se dire on peut restaurer la nature en la raccommodant, en la soignant. De manière synthétique, puisqu'on a déjà été bavard, quelles seraient les différentes manières d'aborder la restauration écologique?
Alors effectivement, ce concept de restauration écologique, donc le fait de de réparer un écosystème qui a été endommagé. C'est d'abord l'approche historique qui a prévalu. Et le danger de cette approche, c'est que de toute façon, il n'y a pas de référence absolue. Et il y a les mêmes débats d'ailleurs dans la restauration artistique. C'est-à-dire que quand on choisit une date de référence, on la choisit pour certaines raisons. Donc ça n'est pas grave, encore une fois, mais il faut le dire, il faut le savoir. Et ça a posé beaucoup de problèmes, puisque lorsque des projets de restauration ont été entrepris, on s'est rendu compte que des communautés, en fait, choisissaient des dates de référence pas par hasard. Et par exemple, souvent, cela permettait d'exclure des populations qui avaient existé là auparavant. On se disait, ma date de référence, c'est celle-ci, par exemple, pour refuser le fait que des Amérindiens avaient pu interagir avec un milieu. Et donc, je pense que c'est très compliqué de se référer uniquement à une approche historique, parce qu'elle exclut toute une part de l'histoire du lieu. Et donc... Effectivement, moi, il me semble plus intéressant d'avoir une approche dynamique de la restauration, c'est-à-dire de se concentrer sur les possibilités de réhabilitation que ça crée, c'est-à-dire quelles possibilités d'interaction positive entre l'être humain et son milieu va créer cette expérience de restauration. Et donc, de manière assez basique, donc de penser la restauration plutôt par rapport à l'avenir que par rapport au passé. Et donc vraiment s'interroger sur quelle dynamique par rapport à un certain écosystème cette restauration va créer.
Et vous parlez même, et c'est là, on fait un bond en avant dans l'ouvrage et dans le récit de votre pensée, de réhabiter notre écosystème, ce qui impliquerait de créer autre chose, donc vraiment dans cette vision dynamique. Et vous dites que se concentrer sur le processus de création, le fait d'être dans cette dynamique, ça implique de mieux connaître la nature, donc de lui porter plus d'attention, donc de comprendre l'écosystème, et que c'est le premier pas pour mieux la connaître. Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. Est-ce que, j'espère, pour les auditrices et les auditeurs, nous avons à peu près planté le décor? On va tout de suite passer maintenant, non pas à un reportage, mais à un choix musical.
Nature urbaine, le reportage.
Et cette interlude musicale se fait avec des fleurs et un air de réveillon. Parce que dans Animal qui ne me sort pas de la tête depuis 3 jours, Francis Cabrel, oui, nous parle de décalage horaire, de Venise, de lagune, et répète à chaque refrain « Il y a une heure où va retentir le signal ». Je crois que c'est à 20h, d'après les dernières annonces, n'est-ce pas? Mais pourquoi les fleurs? Parce qu'aussi, tout simplement, j'aime les fleurs, tout court. Parce que j'aime aussi les fleurs quand tout est gris et que j'ai besoin de couleurs. J'aime le feuillage aussi, car les fleurs, comme dirait Francis Cabrel, c'est peut-être hors saison. Parce que j'aime aussi les fleurs qui sont parfaites et qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être, c'est ce que nous confie ici Clara Luciani, dans un titre sorti en 2018, dans Le Monde d'avant. Mais et si en 1975, dans l'entretien présidentiel, la première dame que nous avons citée en début d'émission, dont le prénom Anne Emon rappelle celui d'une fleur, avait prononcé ces mots, et je vous invite à regarder la vidéo sur l'INA, au moment où Monsieur le Président l'invitait, lorsqu'elle l'interrogeait sur ce qu'elle allait bien pouvoir dire aux Français, à réciter le corbeau et le renard. Et si Madame la Première Dame avait répondu « Monsieur le Président, j'aime aussi les fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. » Il est 20h, nous sommes le 31, la veillée peut commencer, le voici, le signal.
Sa place, on aime moi.
Nature urbaine, l'interview, deuxième partie.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Imo et de Radio Territoria. L'entretien deuxième partie avec toujours Marion Valeur. Alors Marion, parlons maintenant un petit peu plus de vous et de votre activité professionnelle après avoir planté de manière sommaire le décor philosophique. Vous avez étudié la philosophie et vous êtes notamment diplômée de l'École normale supérieure, mais vous avez également un cursus en urbanisme à Sciences Po. Alors, avant d'aborder plus précisément ces questions urbaines et politiques, qu'est-ce que la philosophie vous apporte dans votre travail au quotidien, d'actrice de la ville, de conseillère à la mairie de Paris? Et puis, une deuxième question, diriez-vous que la philosophie fait défaut en politique et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter?
Bonne question.
Vous avez 2 heures.
La philosophie, je pense que pour toutes les personnes qui aiment la philosophie, c'est tout simplement aussi une hygiène au quotidien de remettre en cause beaucoup de choses, de douter, de se poser beaucoup de questions. Et je pense que c'est très utile dans le milieu professionnel, c'est utile pour tout le monde. Après, moi, j'aime beaucoup les concepts en soi. J'aime la philosophie aussi pour les concepts. Je trouve ça très beau de pouvoir tisser justement des concepts, de se raccrocher à ça. Et donc, j'essaye aussi au quotidien et j'ai la chance de travailler avec des personnes aussi qui permettent cela, de lier concept et action urbaine. Donc voilà, c'est un exercice qui est passionnant. Donc j'ai cette chance-là et j'espère que je l'aurai durant toute ma carrière.
C'est un exercice d'équilibriste, effectivement. Et alors, dans votre ouvrage et dans ce que nous avons évoqué en première partie, vous nous invitez à réhabiter la nature. On pourrait même dire, ça va être très facile, à réinventer la nature. Si j'ose dire, et j'ose l'expression, parce qu'elle n'est évidemment pas anodine. Au sein du cabinet de Jean-Louis Missika, dans la mandature précédente, vous avez piloté les concours Réinventer Paris. Alors, en quelques mots, avec maintenant 6 années de recul, déjà, qu'est-ce que cela a changé dans la manière de faire ou d'habiter la ville ?
Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de gens. Je pense que ça a changé beaucoup de gens à la fois à la mairie, de Paris, dans d'autres mairies qui ont pu se lancer dans de tels concours et puis à la fois dans le privé. Et moi, ça, c'est la première chose que je retiens souvent de ces concours, c'est que plusieurs personnes m'ont dit ça m'a permis de rencontrer telle et telle personne, ça m'a permis de lancer des nouveaux projets dans mon entreprise. Je sais que ça a permis à beaucoup de jeunes et à beaucoup de femmes aussi de se faire une place dans leur entreprise parce que ils se sentaient en phase avec ce qu'on demandait dans ces concours. Donc ça, c'est la première chose que je retiens. Et ensuite, au niveau des projets, ça a bien sûr apporté énormément de réflexions. Et voilà, on parlait de philosophie. Je pense que ça a apporté beaucoup de doutes aussi. C'était très sain sur pourquoi on fait les choses comme ça, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, bien sûr, nous, en tant que puissance publique, ça nous a permis d'augmenter nos standards. Parce que, tout simplement, quand on reçoit 375 projets, donc ça, c'était le cas de Réinventer Paris 1, et qu'on voit 375 possibilités de construire ou de rénover différemment à Paris, ensuite, on ne supporte plus les projets qui ne font pas d'efforts, qui ne cherchent pas à améliorer l'intérêt général, qui ne cherchent pas la mixité, qui ne cherchent pas l'ouverture sur le quartier. Et une fois qu'on a vu que c'était possible dans des projets Réinventer Paris, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible partout? Et donc, c'est ça, pour moi, le plus grand apport de Réinventer Paris, c'est que ça a poussé tout le monde à augmenter ses standards. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est vraiment à faire de tout cela la nouvelle norme, que ça ne soit pas seulement l'exception, puisque Réinventer Paris, au début, on avait créé une exception. Et maintenant, on essaye d'en faire la norme. Et donc, voilà, pour moi, Ça a ouvert les possibles, tout simplement, et ça a montré à tout le monde que d'autres formes de construction étaient possibles.
Alors, ouvrir les possibles, qu'est-ce que ça a produit en matière de nature en ville, ou plutôt de natures urbaines, puisque c'est bien le titre de cette émission, et il ne s'agit pas de coller la nature dans la ville, en référence à la première partie de notre entretien. À votre avis, qu'est-ce que ça a changé?
Alors, suite à l'annonce des résultats, le journal Le Monde avait titré 22 nuances de vert. Mmh. Donc c'est vrai que c'était un des... En tout cas, en matière de communication, beaucoup de gens avaient vu Réinventer Paris via ce prisme de ce qu'on appelle la nature en ville, de la végétalisation. Parfois, on peut mal le comprendre aussi. Ce qui est certain, c'est que Réinventer Paris a fait de la végétalisation une nouvelle norme dans les bâtiments. Moi, je retiens ça. Pour moi, ça n'est pas, encore une fois, de l'ordre de l'exception. C'est tout simplement de montrer qu'on peut mettre de la végétalisation ou de l'agriculture urbaine dans des contextes extrêmement différents, qu'on soit dans le centre de Paris, comme par exemple à Morlan, dans le 4e arrondissement, dans l'ancienne préfecture de Paris, ou que l'on soit en bord de périphérique. On peut introduire de la végétalisation et de l'agriculture. Et donc Réinventer Paris a montré un peu un éventail de possibles en termes de végétalisation, que je trouve très puissant, qui a aussi ouvert notre imaginaire et qui nous a permis d'enclencher d'autres projets après.
Alors, effectivement, Paris, on le dit souvent, est une ville très dense. On dit que c'est une ville minérale, mais si je vous suis dans la première partie de notre émission, c'est une question de référentiel. C'est-à-dire que le référentiel de restauration auquel on se réfère lorsque l'on parle de ville minérale, il se fixerait à peu près à l'époque haussmannienne. Donc ça voudrait dire qu'on peut le remettre en question. Mais à l'inverse, certains émettent une critique, celle d'une forme de fragmentation de l'identité urbaine à la faveur des appels à projets, même du patrimoine public aux mains d'acteurs privés. Et de l'autre, certains autres estiment que déjà, dans la grande majorité des espaces urbains, ils sont privés, même les espaces partagés. Alors, en matière de nature, un chiffre que le journal Le Monde a relaté par le biais d'une tribune en septembre, qui me semble tout à fait éloquent, c'est le chercheur Arnaud Bellec qui a estimé que dans la métropole lyonnaise, 73% de la végétation, en excluant les forêts, relève du domaine privé. Et pourtant, je reviens dans la contradiction. Le confinement l'a montré, la densité peut la disputer à la promiscuité. Et vivre dans l'espace public, c'est au moins une nécessité de santé mentale et physique pour tout le monde, voire une question de survie en raison de l'exiguïté des logements, et surtout chez les plus pauvres. Alors, est-ce que c'est une équation impossible? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'imaginer ces espaces? Vous parlez notamment de communs. Et en quoi est-ce que cette notion de commun pourrait-elle s'appliquer aux artefacts naturels, à la végétalisation, entre d'un côté un espace privé, un espace public? Que pouvons-nous faire?
Ça fait beaucoup de questions à la fois.
Ça fait beaucoup de questions à la fois, j'en étais sûr.
Je pense que, honnêtement, il ne faut pas opposer les espaces en matière de sol vivant et de végétalisation. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Moi, là-dessus, vraiment, je pense qu'il ne faut, il faut pas se limiter. Tout espace public qu'on peut végétaliser, qu'on peut débitumer, on doit le faire. Et c'est ce qu'on lance dans cette mandature en végétalisant les abords des écoles, en végétalisant de vastes espaces parce qu'on enlève des voitures, parce qu'on récupère de l'espace public. Mais le potentiel de végétalisation des espaces privés, il est énorme. Et moi, un espace qui me fascine à Paris et que je trouve complètement sous-utilisé, c'est quand même l'espace de la cour d'immeuble, que certaines personnes ont redécouvert pendant le confinement, puisque les enfants pouvaient aller y jouer. Il y a un nombre de cours d'immeubles ou de cœurs d'îlots à Paris qui est absolument gigantesque et qui est sous-utilisé. Vous avez des pépites où, par exemple, des pelouses où les enfants n'ont pas le droit d'aller, où personne n'a le droit d'aller, qui sont là juste pour décorer. Vous avez en fait des cours qui pourraient être débitumés. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'ils pourraient avoir un jardin en bas de chez eux. Et honnêtement, la qualité de vie à Paris, elle augmenterait énormément si tous ces petits espaces privés augmenter aussi. Et donc je pense que vraiment il ne faut pas opposer. Alors il faudra bien sûr, nous, l'investissement public, il ira d'abord toujours à l'espace public parce que ce sont des espaces qui profitent à tout le monde. Mais nous, on est là pour encourager aussi le fait que des copropriétés, que des espaces privés amènent plus de végétalisation parce que déjà c'est bon pour la biodiversité dans son ensemble et puis c'est bon pour les personnes qui habitent là. Et donc je crois que vraiment il ne faut pas se limiter, il faut tout tenter.
Il faut tout tenter. Il y a effectivement des exemples, notamment, je crois, en Allemagne, de mobilisation des cours d'immeubles. Et puis, alors, on n'abordera pas forcément ce débat ici, mais il y a des échanges qui peuvent être faits entre la densification, notamment la construction en hauteur, et le financement public-privé d'espaces ouverts à tous, en pied d'immeuble. Est-ce que ça peut être une perspective envisageable ?
Tout à fait, c'est des réflexions qu'on mène, puisque quand on voit une ville comme Paris, on sait que la valeur des espaces est extrêmement importante. Oui. Et donc c'est un petit peu aussi ce qu'on a tenté avec Réinventer Paris, c'est de se dire, lorsqu'on crée un bâtiment à Paris, il doit apporter énormément à la ville. On ne peut pas juste créer du mètre carré. Mmh. Chaque mètre carré, on doit expliquer pourquoi, et on doit expliquer à quoi il sert, et il doit créer d'autres externalités positives. Et donc l'idée que des porteurs de projets privés puissent aider à la végétalisation, puissent amener des nouveaux services, bien sûr, on y travaille. Oui.
Alors, il y a aussi une question dans votre ouvrage d'artefacts naturels, c'est comment est-ce que ces objets hybrides sont démocratiquement partagés. Et il y a eu une avancée significative. J'ai envie de dire, il y a eu des initiatives participatives que l'on a vues fleurir lors de la précédente mandature. C'est un véritable progrès démocratique, mais aussi pour les expériences de nature. Parce que vous dites dans votre ouvrage, le terme de jardinage, même si le jardin peut faire référence à des espaces, on l'a dit, un peu artificiels, évoque un rapport personnel entretenu avec la nature. Et vous citez notamment, alors j'espère ne pas écorcher son nom, Stuart K. Allison, qui dit « Pour restaurer la connexion des humains à la Terre, nous devons revenir à un rapport personnel et de petite échelle avec l'environnement, à la manière d'un jardinier à genoux plantant des bulbes dans une terre fraîche d'automne. » On s'y croirait déjà, même si nous sommes ici en sous-sol. Parfois, malgré tout, nous pouvons observer l'échec de certaines expérimentations et je dirais le désarroi de citoyens face au potentiel qui s'offre à eux et qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Peut-être faute de connaissances en raison d'une déconnexion au vivant qui est trop forte. Alors vous le savez, c'est une de mes marottes, mais qu'est-ce que vous pensez de l'importance de la médiation, qu'on pourrait appeler par les jardiniers? Est-ce que les jardiniers, animateurs nature, peut-être de nouveaux métiers à inventer, pourraient être des passeurs entre ces formes de natures urbaines et les citadins complètement déconnectés?
Oui, je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Hein. On part de tellement loin puisqu'on a laissé croire que la ville pouvait être un espace hors sol. Donc on a laissé croire aux citoyens qu'ils vivaient dans un espace où la nature n'avait pas forcément droit de cité, qu'on repart de très loin et on a besoin de médiation, on a besoin de professionnels qui vont accompagner les citoyens dans cette redécouverte ou cette découverte d'espaces en ville. Et c'est pour ça que moi, quand on dit oui, ça sert à rien, l'agriculture urbaine, personnellement, de dire qu'un enfant qui va à l'école et qui peut aller une fois par mois, une fois par semaine dans un espace d'agriculture urbaine, cela sert à rien, je trouve ça extrêmement choquant parce que je pense qu'en termes d'écologie, il y a peu d'expériences plus efficaces que cela. Et une autre chose qui me semble importante, c'est de ne pas se limiter qu'aux espaces naturel en ville, je pense qu'il est essentiel d'élargir la perspective et que des citoyens urbains aient aussi vraiment accès à des paysages de référence, qu'on appelle un paysage de référence, un paysage qu'on va voir chaque année ou chaque saison, où on va comprendre en fait comment il évolue, en dehors des espaces métropolitains. Et ça, pour moi, c'est hyper important qu'un petit Parisien, il ait aussi des paysages de référence en dehors. Je pense que c'est une partie de la citoyenneté aussi, pour se rendre compte tout simplement où poussent les fruits et légumes, comment un paysage évolue. Et donc pour tout cela, il faut de la médiation, il faut de l'accompagnement, absolument.
C'est vive le retour des classes vertes.
Oui, c'est un petit peu l'idée de la classe verte, mais augmentée aussi en travaillant sur les cantines et pour vraiment créer des liens au quotidien entre l'espace urbain et l'espace rural.
Alors on va y venir, puisque c'était ma dernière question, puisque nous sommes à la veille de fête, même si cette émission est podcastée, et nous espérons bien qu'à 20h le 31 décembre, vous serez branchés sur Radio Immo et Territoria pour évidemment écouter Natures Urbaines. Mais avant cela, vous avez cité de nouvelles initiatives. En matière de nature en ville, quels seraient, avec la feuille de route qui s'esquisse, les grands chantiers de la mandature qui vient de s'ouvrir?
C'est déjà de faire rentrer la végétalisation dans le maillage très fin de la rue à Paris et de montrer que ça a toute sa place. On a lancé tout un chantier sur l'esthétique et ça me semble très important de montrer à quoi peut ressembler une rue parisienne aujourd'hui, dès lors qu'on libère des places de stationnement, qu'on y met de la végétalisation. C'est clairement un nouveau paysage qui s'ouvre, ce sont des nouveaux usages. Et donc, on doit travailler sur vraiment cette nouvelle typologie d'espace. Et puis après, bien sûr, travailler aussi sur des grands espaces, comment on repense les bois, comment on pense des forêts urbaines. On doit inventer en fait des nouvelles typologies de végétalisation qui seront propres à Paris parce qu'on est dans un contexte particulier, un contexte patrimonial, montrer comment tout cela peut être harmonieux, d'expliquer les choix climatiques qu'on fait, pourquoi on va planter ça à tel endroit, pourquoi ça ressemble à ça. Et puis après, voilà, ce lien avec des territoires ressources qui me semble extrêmement important, de rappeler que Paris est en lien constant avec d'autres territoires, que ce qu'on mange, ce qu'on achète à Paris a un impact sur d'autres écosystèmes et de pouvoir se représenter aussi ces autres écosystèmes. Donc je pense que c'est un chantier à la fois micro-local, vraiment se dire comment chaque rue va changer, et en même temps beaucoup plus large, comment un paysage lointain change quand je fais une action à Paris.
Et c'est exactement ce terme, et vous le savez, il me tient aussi à cœur, d'autant plus cette relation entre le rural, l'urbain, les métropoles, les périphéries, tout ça qui n'est plus en fait, ce ne sont plus des catégories séparées, mais bien une forme de continuum. Il faudrait, et je pense qu'on aura l'occasion de le faire, y consacrer une émission à 100%. Mais si on se raccroche au concret de la fin d'année, chères auditrices, chers auditeurs, pour les fêtes, vous allez peut-être visiter la campagne. Vous allez peut-être aller dans des immeubles, dans des pavillons, dans des maisons pour dîner, évidemment masqués et à distance. Vous allez peut-être déguster des produits du terroir, vous venez de le dire. Tous ces territoires s'étendent au-delà de votre propre lieu de vie. Et Marion, vous avez écrit une tribune il y a quelques mois à propos de la notion de biorégion, qui pour vous serait une échelle qui permettrait de considérer ces interdépendances entre une métropole et tout un tissu de territoire, au pluriel, beaucoup plus vaste. Et vous venez de citer la dimension alimentaire, il y a AgriParis, qui est la coopérative qu'Anne Hidalgo appelle de ses voeux, qui se veut penser à une échelle plus large que la ville et même que la métropole, la question de l'alimentation des Parisiennes et des Parisiens, en complément de l'agriculture urbaine dont vous avez cité les intérêts sociaux, mais aussi en matière d'expérience de nature. Alors, on pense aussi à l'impact des matériaux. Et c'est pour cela que j'ai fait ce petit clin d'œil avec le béton, puisque je sais votre combat sur la biodiversité grise, c'est-à-dire quels sont les impacts de l'extraction de certains matériaux sur les environnements dans lesquels ils sont prélevés. Alors, dans les termes accolés à la restauration de la nature, on parle de négocier. Et la loi nous parle même de certificat de biodiversité. Très franchement, sur le papier, ça ne me fait pas rêver. Dans votre tribune, évidemment, c'est beaucoup plus succinct, vous parlez de coopération. Et vous nous dites même que montrer notre dépendance aux autres territoires, ça nous aide à nous réancrer dans notre propre territoire. Alors, évidemment, il nous faudrait plusieurs dizaines de minutes pour en parler, mais après ce concentré indigeste, quelques mots sur la biorégion.
Je trouve que le concept de biorégion, il est très précieux aujourd'hui et... certaines et certains d'entre vous ont peut-être lu le texte de Bruno Latour pendant le premier confinement où il nous appelait justement à faire ce travail assez simple de se demander en fait de quoi dépend-on au quotidien pour vivre, redessiner à l'échelle individuelle les choses et les personnes dont on dépend et se dire sur cette base-là qu'est-ce que je souhaite garder, qu'est-ce que je peux modifier. Et quand on fait ça à l'échelle d'une ville, je pense que l'échelle de la biorégion, elle est extrêmement intéressante parce qu'on peut se demander voilà, quelle est la bonne échelle de ressources que j'ai envie de consommer. Est-ce que j'ai envie de consommer des ressources qui viennent de l'autre bout de la planète ou plutôt des ressources qui viennent d'un bassin de vie où il peut y avoir des interdépendances, où on peut s'apporter des choses mutuellement. Et donc, je trouve que c'est un concept très intéressant, à la fois pour l'urbanisme, pour la philosophie, et puis pour arrêter d'avoir cette vision hors sol des villes, qui n'a aucun sens de croire qu'on vit, que les matériaux sont gratuits, que ce qu'on consomme est gratuit, et vraiment voir l'impact sur les écosystèmes de ce qu'on consomme, de ce qu'on produit. Et pour cela, la proximité, bien sûr, est une chance qui... Et j'insiste là-dessus, la biorégion ne doit surtout pas créer du repli. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de se limiter à une région et de ne plus en sortir, parce que dans ce cas-là, bien sûr, il n'y aurait plus d'échange ni d'hospitalité. Et donc, il est très important d'avoir une vision ouverte, et Bruno Latour parle beaucoup de ça d'ailleurs, une vision ouverte d'une biorégion, de se dire on a un socle, en fait, un milieu avec des écosystèmes qui sont existants, mais bien sûr, cela n'empêche pas d'accueillir de nouveaux êtres vivants, des nouvelles populations dans cet écosystème. Donc la biorégion ne doit surtout pas mener à une forme de conservatisme. Et comme vous le savez, l'écologie et le conservatisme, parfois, sont utilisés de pair. Et donc je pense que quand on parle d'écologie, il est toujours important de rappeler qu'on peut pratiquer une écologie ouverte et hospitalière.
Écologie ouverte et hospitalière, ce sera le mot de la fin pour vous, Marion Valeur. Chères auditrices, chers auditeurs, nous espérons que cet itinéraire philosophique, reliant différentes pensées de la nature et de ses rapports complexes avec l'espèce humaine, qui en fait bien partie de cette nature, ne vous aura pas distancié de notre antenne. Je me sens mieux, en fait, à la fois un peu moins coupable et plein d'entrain, toujours conscient de la taille des enjeux immenses, écologiques, et cette année plus encore, économiques et sociaux auxquels nous allons devoir faire face. Marion Valeur, merci de nous avoir accompagnés dans ce récit. Cette émission a été préparée avec l'aide et le coaching précieux de Fanny Bourdin, grâce à la ténacité de Sylvain et Olivier, et avec à la technique un immense merci aujourd'hui tout particulièrement à Jason et Théo. Merci à tous, portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.